Bienvenue sur Slowly, le podcast qui invite à ralentir et inspire à suivre ses rêves. Bonjour, je suis Camille. J'ai créé ce podcast il y a déjà 4 ans et au fil des années, il a tout naturellement grandi avec moi. Je suis créatrice de livres bien-être, accompagnatrice en yoga et j'organise des retraites collectives ou individuelles en Auvergne. Aujourd'hui, je suis également maman et j'essaye d'autant plus de combiner les tâches du quotidien avec mon épanouissement personnel, grâce à la slow life et à la nature. Depuis mon envol vers l'entrepreneuriat il y a 7 ans, je suis guidée par mes rêves, ma nature sacrée et mon féminin sauvage. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à découvrir mon Instagram et à visiter mon site Slowly. Bienvenue dans mon univers et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit épisode sur les voyages avec un bébé parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement et que je vis depuis, on va dire, 3-4 mois. Donc je suis en plein dedans et c'est le moment parfait pour vous partager mes idées, mes conseils et puis mon expérience personnelle. Alors, pour vous faire un petit retour en arrière, en octobre 2023, on a du coup décidé de partir du Mont d'Or pour une durée de 6 mois à peu près de voyage avec notre petit bébé Hayat qui avait 9 mois au moment où on a décidé de partir. Avec mon compagnon, en fait, on peut dire qu'on est des voyageurs dans l'âme parce que ça fait très longtemps qu'on voyage d'abord tout seul et puis ensuite on a voyagé tous les deux. Donc c'était assez normal pour nous en fait de continuer cette dynamique de voyage et de le faire avec notre enfant maintenant. Alors avec Agathe, on avait déjà fait quelques petits déplacements en France de 3 jours à une semaine on va dire. Mais là c'était la première fois qu'on décidait de partir à l'étranger plusieurs mois avec Agathe. Donc c'est de ça dont je vais vous parler en fait dans cet épisode. C'est pas forcément de voyage comme on pourrait l'entendre, des voyages de 1 à 2 semaines en itinérance, en dormant une nuit dans un hôtel, 3 autres nuits dans une maison d'hôte par exemple. Nous, la manière que l'on a de voyager depuis qu'on voyage déjà en couple et même seul d'ailleurs, c'est plutôt une manière de voyager où on va partir pour de longs séjours à l'étranger de plusieurs mois. En général, on va s'arrêter, trouver un point de chute principal et ensuite rayonner à partir de ce point de chute, mais rester en tout cas dans cet endroit, ce point de chute, plusieurs mois. Et c'est une manière pour nous d'expérimenter un peu mieux la vie locale, quoi. Donc c'est la manière de voyager qu'on aimait et qu'on aime le plus et on a conservé du coup cette manière de voyager parce qu'on trouve qu'avec notre bébé c'est une bonne manière de voyager aussi. Alors après nous on sait que ça convient à notre bébé mais voilà, en fonction des enfants qu'on a et des expériences de vie qu'on a eues avec lui, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres manières de voyager qui peuvent aussi très bien lui convenir. Mais nous, c'est vrai qu'on trouvait qu'on avait besoin quand même d'une routine, d'instaurer une routine avec elle et un lieu fixe pour dormir. Cette première destination, c'est l'Autriche. On a décidé de partir là-bas pendant les 2 premiers mois de notre phase de nomadisme, qui, elle, dure 6 mois. On s'est d'abord arrêté sur l'Autriche et on n'a pas forcément décidé tout de suite des autres pays qu'on allait faire. On s'est un peu laissé le temps de réfléchir, d'adapter aussi en fonction de ce premier voyage qu'on allait faire avec notre bébé. Alors, pourquoi l'Autriche ? L'Autriche, j'avoue que c'était un peu une évidence. Enfin, pas qu'un peu, c'était une évidence pour nous. surtout la région du Vorarlberg en Autriche. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à la frontière entre la Suisse, l'Allemagne et le Liechtenstein. C'est une région en fait où j'avais déjà habité 2 ans, de mes 24 ans à mes 26 ans. Et c'est une région que j'avais beaucoup aimée. Donc pour notre premier séjour à l'étranger, on voulait surtout retourner dans un coin du monde qu'on connaissait quand même déjà assez bien, qui plus est en Europe, parce que c'était quand même plus facile pour nous pour les démarches de visa par exemple, là il n'y en a pas besoin. Et en plus, c'est un pays qu'on pouvait rejoindre en voiture. Donc ça, c'était un point qui était assez important pour nous aussi au départ. Retourner dans un endroit où on avait déjà habité, c'était plus facile pour nous d'imaginer ce à quoi allait pouvoir ressembler notre quotidien là-bas avec un enfant. Et en plus, partir en voiture, bah, ça nous a permis d'emporter tout ce qu'on voulait ou presque avec nous dans la voiture. Autant dire qu'elle était assez chargée, mais c'était très pratique pour emmener du matériel avec nous et toutes les choses qu'on n'aurait pas pu emmener dans un avion par exemple. Et avant de continuer et de vous parler vraiment de ce qu'on a vécu en Autriche, j'avais envie d'aborder avec vous plus le côté pratique de comment du coup on fait pour pouvoir se permettre de partir plusieurs mois à l'étranger comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être une question que vous alliez vous poser. Déjà par rapport à notre logement, il faut savoir qu'au Mont-d'Or, l'appartement dans lequel on habitait, c'est mon appartement que je destine au long terme à la location saisonnière. Et c'est dans ce projet-là, dans cette projection-là que je l'avais rénové. Donc là, on y habitait, mais c'était pas une situation qui était viable au long terme. Et à côté de ça, on rénove un ancien bureau. C'est une ancienne ferme de montagne qui sera bientôt notre future maison. Mais le truc, c'est que pendant l'hiver, à cause de la neige et de l'accessibilité du chemin pour s'y rendre, et ben on ne peut pas continuer les travaux. Enfin, quand il y a de la neige, quand il fait froid, c'est difficilement envisageable. Donc généralement, là, ça fait 2 ans que pendant l'hiver, on coupe totalement les travaux. Et en fait, c'est le meilleur moment pour nous pour bouger, pour aller à l'étranger et comme ça aussi remettre mon appartement en location saisonnière. Donc en octobre 2023, on a désinscrit Agathe de la crèche. Et on a pris nos ordinateurs sous le bras avec nous pour continuer à travailler depuis l'étranger. C'est vrai qu'avec mon compagnon, on est tous les deux auto-entrepreneurs et on a aussi une entreprise en commun. Et qui fait aussi qu'on peut travailler de n'importe où à partir du moment où on a un ordinateur et une connexion Internet. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, travailler à distance depuis au moins 6 ans, je dirais. On a l'habitude de bouger et d'emporter notre outil de travail avec nous en fait. On a quitté notre appartement, mais du coup il a fallu en trouver un autre à l'étranger, en Autriche, pour 2 mois. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche nos appartements sur Airbnb. Vous devez savoir qu'il y a une option pour trouver des logements au long terme sur Airbnb pour plusieurs mois. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une offre qui est assez importante de logements en long terme sur cette plateforme. Donc nous, on trouve généralement notre bonheur quand on cherche sur Airbnb. Pour le coup, pour l'Autriche, ça n'a pas été si facile en fait, parce que on avait un budget assez bas pour le niveau des loyers en Autriche. Donc, j'ai envoyé peut-être une trentaine de messages à des loueurs et j'ai dû recevoir qu'une seule réponse positive en fait. C'était notre seule option, mais c'était une très belle option. Je suis très contente du logement qu'on a pu avoir. Notre loyer, il était de 850 euros par mois, eau, électricité et internet compris, ce qui rentrait dans notre budget. Et ce qui est assez bien pour nous, c'est qu'on paye un assez petit remboursement de prêt pour notre maison au Mont-d'Or. Donc ça nous permet en fait de pouvoir cumuler éventuellement deux loyers. Voilà pour la petite question pratique. Donc ce compte rendu de notre expérience en Autriche avec bébé, parce que cette fois-ci on était trois. Je vais commencer par le trajet en voiture qu'on a dû faire. Pour se rendre dans le Vorarlberg en Autriche, il faut 9 heures de route environ depuis Le Mans. On est parti du Mans en Sarthe. D'habitude, les trajets en voiture avec bébé, on les fait d'une traite. Mais là, on a décidé de couper la route en deux parce que ça faisait quand même un petit peu long, 9 heures de route pour elle et pour nous aussi, dans la mesure où elle pouvait éventuellement pleurer. Donc on a fait le trajet en 2 jours. On s'est arrêté pour une nuit. On a coupé la route en deux. Et ça nous permettait comme ça de faire 4h30 une journée, 4h30 l'autre journée. Et vraiment, pour le côté pratique, nous, avec notre fille, on roule en général 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi, juste après le déjeuner, pendant ces temps de sieste. Et c'est vrai que ça se passe très bien en général. Elle dort quand même la majeure partie du temps. Donc c'est assez confortable pour nous de partir en voiture, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait de partir en voiture, ça nous a permis d'emporter beaucoup d'affaires avec nous, beaucoup de matériel pour bébé. On a emporté une poussette, un porte-bébé, un lit bébé avec le matelas, une chaise haute pour manger. Nous, ce qu'on a, c'est pas vraiment une chaise haute classique, on va dire. C'est plutôt un siège qui se clipse à une table et qui ensuite peut se replier. Donc ça prend pas beaucoup de place quand même. Qu'est-ce qu'on a emporté aussi? Tout plein de produits d'hygiène, de médicaments forcément, des jouets, un tapis de jeu. On a emporté aussi une baignoire pliable. Et puis un petit peu de nourriture, donc des petits pots pour bébé et du lait bébé en boîte pour à peu près tenir 2 mois. On avait envie d'avoir tout en fait ce dont on pouvait avoir besoin dès qu'on arrivait et pas avoir à chercher sur place. Ni du matériel, ni voilà, la nourriture de base, on va dire, d'Agathe. Pour faire un point sur tous les petits problèmes qu'on a pu rencontrer à l'étranger et précisément en Autriche, tout d'abord, c'est le système de garde d'enfants. C'est vrai que nous, on pensait, le plan c'était de travailler à distance. Surtout que c'était la période des ventes de Noël, donc on a très souvent beaucoup de travail à cette période-là. Donc on pensait pouvoir peut-être trouver une nounou ou mettre Agathe dans une sorte de crèche ou de centre de loisirs pour bébé. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être possible en demandant conseil à des Autrichiens sur place. Et concernant les nounous, c'était un peu trop cher pour nous. On n'a pas trouvé en fait de système pour des gardes comme ça de façon occasionnelle en fait. Et la propriétaire de notre logement m'a même dit que sa fille avait 2 ans et elle a dû la garder pendant ses 2 premières années parce que elle non plus n'avait pas réussi à trouver une place en crèche pour sa fille. Donc à partir de là, ça allait être un petit peu compliqué pour nous. Donc on a gardé Agathe tous les jours avec nous, même si on devait travailler. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu embêtant pour nous parce qu'on avait l'impression de la laisser un peu de côté, de la laisser tout le temps jouer seule. Donc c'était pas forcément agréable. Après ça s'est quand même bien passé parce qu'on n'a pas eu de trop non plus de demandes à ce moment-là de sa part pour qu'on soit avec elle trop souvent, on va dire. Au niveau des choses qu'on n'a pas retrouvées en Autriche, alors déjà il y a les petits pots. Et les compotes, alors c'est quelque chose qui se fait pas vraiment là-bas. J'ai l'impression d'acheter vous savez, des petits pots tout près de nourriture, des purées quoi pour bébé. Alors que c'est quelque chose qu'il y a énormément dans les magasins en France. C'est vrai que ça nous a un peu surpris et que c'était, enfin disons qu'on en consommait pas mal à cette époque-là. C'était plus simple pour nous. Enfin, on faisait un peu des deux, on faisait aussi des purées maison, mais ça nous permettait quand même une grande flexibilité d'avoir des petits pots tout prêts. Donc il n'y en avait pas. Ou alors c'était très cher et ça se vendait au pot à l'unité. Donc impossible pour nous de mettre un tel budget nourriture pour l'alimentation d'Agathe. Pas de compote non plus. Donc. On est passé au petit pot, enfin au purée faite maison intégralement pendant ces 2 mois en Autriche. Après, avec du recul, c'est vrai qu'en prenant l'habitude de faire ça, je me rends compte que c'est pas si contraignant. C'est contraignant uniquement quand on avait besoin de se déplacer, par exemple une journée, et qu'on avait envie d'emporter un petit pot avec nous pour la faire. Manger quelque chose au restaurant et qu'elle était trop petite encore pour manger comme nous quoi. Donc ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'on a acheté des sortes de petits compartiments. Normalement, c'est des compartiments, je crois, à poudre de lait. Et nous, on les a utilisés pour mettre des purées faites maison dedans. Une autre chose qu'on n'a pas trouvée sur place, c'est le sérum physiologique. Je sais pas pourquoi, il n'y en avait pas, on a fait plusieurs magasins, on n'en a pas trouvé, donc on a décidé au final de le faire nous-mêmes. On a trouvé une sorte de recette sur internet pour le faire à la maison, et c'est vrai que c'est pas si compliqué non plus. Donc voilà, on a fait notre propre sérum fille. Et une dernière chose que j'avais envie de dire par rapport aux petits soucis qu'on a eus. Quand on a réservé notre logement sur Airbnb, on a forcément pas regardé le type de sol et on n'a pas forcément pensé au fait que notre enfant allait pouvoir salir ou endommager ce sol. Il se trouve que c'était un parquet non vitrifié, je crois qu'on dit comme ça, au sol. Et c'est pile la période où Agathe a eu des grosses crises de poussée dentaire et bavait beaucoup tout en faisant du quatre pattes par terre. Donc voilà, vous pouvez imaginer toutes les traces de bave qu'il y avait sur le sol et qui étaient instantanément imbibées par le parquet et faisaient des traces blanches. Donc il y en a eu un peu partout, ça nous a fait beaucoup stresser. Tout le long du séjour pour essuyer les taches au fur et à mesure et constater malheureusement qu'il y en avait de plus en plus sur le sol. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on prend pas forcément en compte quand on réserve un logement et par rapport au quotidien d'un bébé, des choses qu'on ne sait pas forcément parce que le bébé se développe tellement vite de semaine en semaine qu'il fait des nouvelles choses qu'on ne pouvait pas envisager à l'avance. Ça a été le cas pour nous là. Et au final, c'est pas des mauvaises surprises, mais disons que peut y avoir des choses qui vont nous stresser alors qu'on ne l'avait pas envisagé. Et du coup, il faut soit trouver des solutions assez rapidement, soit. Il n'y a pas d'autre soin en fait. Je pense qu'on est tout le temps en train de chercher des solutions et entre, faire avec. Je ne sais pas si on peut vraiment prévoir à l'avance ces choses-là. Peut-être quand on a un deuxième enfant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, faut se dire, il y aura toujours des choses en fait qui vont un peu arriver qu'on n'avait pas prévues et que voilà, de par le fait qu'on est avec un enfant. Mais dans tous les cas, c'est chouette aussi de faire attention au logement dans lequel on est, qui n'est pas le nôtre, et de quand même essayer d'en prendre soin et de pas l'abîmer, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était par rapport au point un peu négatif qu'on a rencontré sur place. Ah si, je voulais ajouter que... Encore du fait qu'on est dans un logement qu'on ne connaît pas, qui n'est pas à nous, dans lequel on n'a pas habité, et tout d'un coup on arrive dedans et on doit adapter notre quotidien un petit peu à ce logement. Nous, on a un peu stressé aussi par rapport au bruit, parce qu'en fait les propriétaires étaient sous notre logement. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément super bien insonorisé. Donc voilà, un bébé qui tape par terre, qui fait tout le temps tomber des choses, le biberon, qui crie parfois, qui pleure. C'est vrai que ça m'a un peu stressée aussi de me dire, mais oh là là, on doit les déranger, les gens en dessous, faut pas trop qu'ils nous entendent. Et au final, c'est vrai que si j'avais su, j'aurais... Enfin, maintenant, je fais attention quand je réserve des logements à ce que ce soit soit bien insonorisé, soit à ce qu'on soit au rez-de-chaussée, ou alors que ce soit une maison qui n'ait pas de gens en dessous de nous, quoi. Et aussi, ce qui était assez rigolo, c'est que je disais que les bébés, ça grandit super vite de semaine en semaine. Et là, pour le coup, Agathe, elle a découvert le quatre pattes quand on était en Autriche. Donc, on n'était pas du tout habitués et prêts vraiment aux conséquences de cette phase de développement. Donc, au final, on a dû acheter parc de jeux, enfin un espace qui soit délimité où elle puisse rester et sans qu'elle aille partout dans l'appartement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dû acheter sur place en se rendant compte des petits soucis qu'on pouvait avoir pendant qu'elle faisait du quatre pattes. Alors après, la chance qu'on avait peut-être, c'est que j'ai pu me faire envoyer directement à l'adresse là-bas, ce parc à jeux. Donc au final d'être en Europe, ça rassure aussi de se dire on peut rapidement se faire envoyer des choses, commander sur internet, ça arrive et au final si on manque de quelque chose, ça peut arriver assez vite quoi. Voilà. Bon, je vais passer aux points positifs maintenant quand même. Les points positifs de notre séjour en Autriche. Déjà j'ai trouvé que c'était un pays qui était très kids friendly comme on dit, qui était très adapté ou accueillant pour les enfants, notamment dans les espaces publics et les restaurants, les cafés. Il y avait toujours des chaises hautes pour bébés, des jouets pour que l'enfant puisse jouer, un espace carrément de jeu dédié aux enfants. Enfin, tu sens que tu peux venir avec ton enfant au restaurant, c'est vraiment pas un souci, quoi. Les gens sont habitués à ça, j'ai l'impression. Donc ça, c'était vraiment pratique. Ce qui était assez bien pour nous aussi, c'est que comme on y avait déjà vécu, on connaissait la culture, on connaissait la façon de vivre globalement des Autrichiens, en tout cas dans cette région-là. On connaissait le climat. Et on savait en fait de toute façon à l'avance que ça allait être un pays où ça allait pas être trop difficile de s'adapter. Culturellement parlant, quoi. En plus, il y a l'euro, donc ça facilite quand même aussi tout ce qui est organisation avant le départ. Donc ça, on l'a très bien vécu, l'acclimatation au pays. On était vraiment super contents de retourner en Autriche. C'est un pays où tu te sens jamais en insécurité. Les gens sont gentils. Bon, alors, par contre, ça parle allemand. Ça parle pas français. Mais les gens parlent super bien anglais. Donc c'était pas trop difficile de se faire comprendre. Et sinon, j'ai envie de dire le gros point positif, c'était quand même de pouvoir y aller en voiture. C'était quand même hyper rassurant pour nous d'emporter tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on pensait pouvoir avoir besoin durant ce séjour avec nous. Par rapport à l'acclimatation d'Agathe, pour le coup, elle a été un peu ronchon les premiers jours. Elle demandait un petit peu plus d'attention. Elle chouinait un petit peu plus aussi. Mais au final, on s'est rendu compte que ça a duré vraiment que quelques jours. Et qu'ensuite, elle s'est vite habituée à la fois à l'endroit où on la faisait dormir et à notre rythme de vie là-bas et au nouveau logement. Je ne sais pas en fait si c'est dû au pays, si c'est dû au logement, si c'est dû à son tempérament à elle. Bon, peut-être que aussi nous, le fait qu'on avait tout ce qui pouvait nous rassurer avec nous et tout le matériel qu'elle avait quelque part l'habitude d'utiliser au quotidien en France, tout ça, ça l'a mis dans un climat de confiance qui l'a fait qu'elle s'est quand même plutôt assez vite adaptée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 mois qu'on a passé en Autriche. Après ces 2 mois, le but c'était de rentrer en France pour Noël, pour passer les fêtes de fin d'année avec notre famille et son anniversaire aussi à Agathe par la même occasion. Et c'est vrai qu'on a beaucoup hésité sur le deuxième pays qu'on avait envie de visiter. Quelques semaines avant de rentrer, même quelques jours, j'ai envie de dire, on s'est décidé pour notre prochaine destination et on s'est fixé sur le Maroc. Donc on a réservé nos 3 billets aller-retour pour le Maroc pour y séjourner en fait durant 5 semaines. Alors pourquoi le Maroc? Déjà, il faut dire que après l'Autriche, comme on a vu que ça s'était globalement bien passé, on était prêt, on se sentait prêt pour tester un voyage en avion cette fois. Parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'affaires que j'avais emmenées en Autriche qu'au final j'ai pas du tout utilisées, il y a des vêtements que je lui ai même pas mis. Voilà, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir faire plus léger en termes de bagages. Et comme pour l'Autriche, on a cherché un logement sur Airbnb pour 1 mois, 5 semaines cette fois. On a décidé de rester à Mirleft. Mirleft, c'est un petit village au bord de l'océan Atlantique qui est au sud d'Agadir. Donc c'est vraiment sud Maroc. Et il faut savoir qu'on n'a pas choisi cette destination par hasard. Parce que Mirleft, c'est un village en fait où j'avais une retraite de yoga qui était prévue là-bas, bah justement en début d'année, là 2024. Donc en fait, on s'est dit, bah autant, quitte à ce que moi j'y aille, autant en profiter aussi pour passer un séjour en famille là-bas et profiter un peu de la chaleur et du soleil en ce début d'année. Donc on a trouvé un logement qui nous paraissait plutôt fonctionnel. Pour être avec bébé. C'est vrai que maintenant, j'avoue que je vais plus faire attention à des critères voilà, en termes de fonctionnalité de l'appartement qu'un critère coup de cœur, quoi. Là, on savait qu'on voulait 2 chambres, qu'on voulait une cuisine équipée avec micro-ondes, frigo, congélateur, enfin une salle de bain fonctionnelle. C'était vraiment notre priorité. Donc on a trouvé un logement pour un loyer de 700 euros. Donc pareil comme en Autriche, eau, électricité et internet compris. Donc c'était dans notre budget. Et donc on a réservé. L'avantage en plus pour avec le fait de partir au Maroc, c'est que c'est qu'à 3h30 de vol de Paris. Donc au final, c'était pour nous un premier vol en avion sans forcément faire un long courrier tout de suite. Et ce voyage en avion, du coup, comment s'est-il passé? Il faut savoir que c'était pas qu'un simple vol pour nous. L'expérience globale, elle était de d'abord prendre un train pour aller jusqu'à Paris, puis prendre un taxi jusqu'à l'aéroport, ensuite le vol, et ensuite encore un taxi jusqu'à Mirleft. Donc en fait, c'était quand même assez long voyage, assez long trajet. Et encore une fois, on s'est dit, pour couper la route, hein, le voyage en deux, on va faire un stop à Agadir d'une nuit. Comme ça, on aurait le temps de se reposer et de pas non plus trop tirer sur la corde, sur la jauge de, comment dire, sur la jauge de ce que peut accepter bébé en une journée, quoi. Donc voilà, c'était le premier vol en avion d'Agathe. Et pas que je stressais, mais je me questionnais un peu sur comment elle allait réagir dans l'aéroport et puis dans l'avion, enfin comment ça allait le faire pour elle. Globalement, ça a été, je vais dire, surtout pour le vol aller. Pour le vol retour, elle a un petit peu pleuré, un petit peu crié à certains moments. Ce qui n'était pas très confortable pour nous, mais globalement ça a été. Par contre, elle s'est mise en mode hyperactive, il fallait tout le temps l'occuper, jouer avec elle, et elle n'a pas du tout réussi à dormir dans l'avion pendant les 3h30, quoi. Alors que c'était pourtant son temps de sieste. Ensuite, pour les trajets en voiture qu'on a fait au Maroc, il faut savoir qu'on n'a pas pris de siège auto avec nous. Donc en fait, on n'avait pas de siège auto. Dans le trajet en taxi, il y avait quand même 2 heures, 2 heures et demie de route. Si on avait eu un siège auto, je pense que le trajet aurait été plus confortable et pour nous et pour elle aussi, parce qu'elle aurait peut-être pu dormir, se reposer. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'on n'en aurait pas pris un avec nous dans l'avion, mais peut-être qu'on aurait pu organiser ça à l'avance, soit avec le taxi, soit avec la maison d'hôte dans laquelle on allait séjourner, en fait. En termes de valise, on a emporté une grosse valise avec nous, une valise cabine et puis deux sacs à dos qui peuvent aller en cabine aussi. On a principalement emporté des vêtements, de la nourriture, parce que j'avais un petit peu peur de pas trouver des choses que j'avais envie d'avoir pendant un mois au Maroc. On a emporté aussi quelques jouets, quelques affaires de toilette. Et le seul équipement pour bébé qu'on a pris avec nous, c'est du coup ce siège pour manger à table. On avait beaucoup hésité à prendre son lit bébé, mais on s'était dit qu'on pourrait peut-être la faire dormir sur un matelas par terre, un peu comme ça, quoi. Au final, si on avait su, soit on aurait pris le lit bébé, mais bon, c'est quand même super encombrant de prendre l'avion avec, soit on aurait mieux organisé ça pour être sûr d'en avoir un dans notre appartement. Dès notre arrivée, en fait. Du coup, on n'en avait pas en arrivant, on n'en avait pas dans notre hôtel à Agadir, on n'en avait pas en arrivant dans notre appartement à Mirleft. Et clairement, ça a été une grosse galère pour lui faire faire des siestes et pour la faire bien dormir la nuit. Quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude, en fait. Donc on s'est dit, ouh là là, ça va pas très bien se passer. Donc en fait, on a eu la chance que notre propriétaire nous trouve un lit bébé et nous l'amène dès le deuxième jour, en fait. Donc voilà, à voir vous comment votre bébé il est en fonction des. Enfin, est-ce que le lit bébé c'est vraiment un must-have pour le bébé s'il peut pas dormir sans ou quoi? Et nous on s'est rendu compte que effectivement le lit bébé c'était indispensable pour le bon sommeil de notre fille quoi. Une autre chose pour laquelle on a pas mal hésité, c'était la poussette. Et au final, on a juste pris un tout petit porte-bébé avec les sangles réglables, là, pas une écharpe, vraiment un porte-bébé, mais qui prend pas du tout de place dans les bagages. Et au final, on a été super contents d'avoir choisi cette option parce que les routes n'étaient pas toujours praticables, les trottoirs non plus. Ça aurait été une galère de rouler soit dans la terre, enfin des sols en terre avec ou des sols avec des graviers. Donc voilà, le porte-bébé, c'était vraiment la solution idéale, surtout qu'il faisait pas trop chaud, nous, en janvier. Donc voilà, on n'avait pas besoin de. Enfin. Un porte-bébé ventral, ça allait avec elle parce qu'elle avait encore pas trop chaud dedans, quoi. Pour ce qui est du lait bébé, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, au Maroc, en fait, comme en Autriche, on avait pris plusieurs pots de lait bébé avec nous, le lait bébé en poudre. En Autriche, on en avait manqué un petit peu à la fin du séjour, mais on avait pu trouver une autre marque de lait bébé en magasin. Par contre, au Maroc, pareil, nous en a manqué un petit peu sur les derniers jours. Et on n'a pas trouvé de lait en poudre dans les magasins qu'on a fait. On a juste trouvé une sorte de lait liquide en fait qu'ils mettent au frigo. Donc bon, bah on a utilisé ça, mais c'est vrai que la consistance était vraiment vraiment différente. Et en plus là-bas au Maroc, on ne pouvait pas se faire livrer de colis, donc on n'a pas pu en commander en ligne. Donc là, pareil, à refaire, je pense qu'on aurait pris plus de quantité qu'on pouvait penser avoir besoin, parce qu'au final, on en a toujours manqué, quoi. Au Maroc non plus, on n'a pas trouvé de petits pots. Bon, c'était pas très grave parce qu'on avait en fait pris une sorte de petit mixeur avec nous. On a pu, pareil, faire des petits pots maison. Et puis en plus, la Agathe, elle commençait à manger des choses plus solides, enfin avec des plus gros morceaux, donc c'était plus facile pour lui faire à manger. Et on lui donnait des fruits entiers à la place des compotes, quoi. Voilà, mais sinon c'est vrai qu'on était plutôt bien au Maroc. On n'a pas eu de mauvaises surprises. Globalement, la vie était assez facile avec un enfant. On a trouvé les gens très accueillants. Très gentille avec les bébés, l'ambiance même dans le village entre étrangers, elle était très légère, tout le monde se parle un peu, il y a des gens qui nous ont donné des jeux pour bébés parce qu'ils partaient, enfin, il y avait beaucoup de familles d'ailleurs avec des jeunes enfants, on a trouvé. Donc c'était assez agréable pour nous. Voilà, donc pareil au Maroc, Agathe elle s'est bien adaptée, c'était pas compliqué la vie pour elle, elle dormait bien. Et puis nous, en plus, on n'avait pas besoin de autant travailler que quand on était en Autriche, donc on était plus disponible pour elle aussi. Donc voilà, je ne sais pas si on aurait pu trouver un système de garde au Maroc, je ne suis pas sûre. Et après le Maroc, donc on a passé 5 semaines là-bas, et pareil, alors on planifiait de partir encore un mois à peu près à l'étranger. Et on hésitait encore beaucoup sur la destination. On hésitait entre la Chine, la Thaïlande, la Réunion. La Réunion, ça nous semblait être une bonne option. Alors pour le coup, c'était un long courrier, mais bon, pourquoi pas. Et en plus, on s'est dit que ça allait être enfin, plus facile parce qu'on peut trouver globalement les mêmes services qu'en France là-bas. Ils parlent français, enfin voilà. On disait que c'était quand même bien pour une expérience plus lointaine, mais qui reste quand même dans quelque chose qu'on connaît. La Chine, on n'a pas réussi pour la Chine à trouver de logement type appartement. Avec une cuisine, une voire deux chambres pour notre budget et pour un mois. Ça, c'est quelque chose, j'ai pas non plus passé. J'ai quand même passé du temps à chercher, mais Je pense que c'est peut-être plus le bouche à oreille qui aurait pu nous faire trouver quelque chose comme ça. Et des personnes qu'on connaît sur place, mais ça nous semblait un peu last minute pour organiser tout ça et un peu difficile du coup de se projeter avec bébé. La Thaïlande, ça aurait pu être possible aussi, mais on hésitait beaucoup sur le point de chute. Pour avoir beaucoup été en Thaïlande déjà, j'adore plein de coins de la Thaïlande et ça m'embêtait un peu au final de rester à un seul endroit. Et j'ai pas réussi, voilà, à me dire on trouve une maison là ou un appartement là, une autre ici. Enfin, souvent, nous, quand on voyageait en Thaïlande, c'était quand même dans des cabanes ou des guest house où on n'avait pas de cuisine en fait. Mais par contre, là, pour le coup, on s'imaginait pas du tout y aller sans pouvoir cuisiner à la maison, quoi. Surtout pour Agathe. C'est comme si on n'arrivait pas à se décider en fait pour cette dernière destination. Et au final, refaire un vol aussi rapidement pour encore une autre destination, qui plus est un long vol cette fois-ci, ça me semblait en fait un peu rapide, un peu précipité, un peu trop pour Agathe. Et pour nous aussi, c'est vrai que même si c'était super, ces deux voyages qu'on a faits à l'étranger, ça fatigue quand même de les trajets, de préparer les valises, de les ressortir, de les refaire, de prévoir, d'imaginer ce dont on peut avoir besoin, de s'acclimater au nouveau logement, au nouvel espace pour vivre, à la nouvelle vie quotidienne. Moi j'adore, hein, j'adore tout ça. Mais mine de rien, c'est un peu plus fatigant de le faire avec un bébé avec soi. Et voilà, j'ai senti quand même une certaine fatigue et j'ai pas eu envie de réenchaîner tout de suite avec un autre pays à l'étranger. Donc, on a décidé au final de rester en France pour ce dernier mois et d'aller en Bretagne, en Bretagne centre. C'est où je suis actuellement depuis d'où j'enregistre ce petit épisode. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on a atterri en Centre-Bretagne. C'était qu'à 2-3 heures de route du Mans. En fait, je parle du Mans à chaque fois parce que c'est là où habitent mes parents et en général, on s'arrête chez eux avant d'aller quelque part d'autre à l'étranger ou là pour le coup, même rester en France. Donc, on est passé par là-bas pour passer ensuite en Bretagne. Et on est très content en fait d'être là. J'avoue que ça fait 2 semaines qu'on se repose, qu'on vit au ralenti. On a opté cette fois-ci pour une maison plein pied. Enfin non, avec un étage, mais dans le sens où on n'a pas de voisins quoi. On a un grand jardin. On est dans un petit hameau où il n'y a personne, donc on peut aller se promener, laisser un peu bébé jouer dehors, il n'y a aucun souci. On est vraiment bien. En fait, on est content d'avoir choisi de rester en France pour cette dernière destination. Ça nous permet aussi de se poser et de reposer un peu les bases, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel pour l'année 2024 qui, moi, dans mes ressentis, commence vraiment au début du printemps, en fait, en mars. J'ai ce nouvel élan, j'ai besoin de le prendre, moi, à partir du mois de mars et pas début janvier. Donc voilà, là on est en phase de, on se prépare à la renaissance, au renouveau, on profite des dernières semaines de l'hiver quelque part, d'introspection, de cocooning à la maison, d'être tous les trois et de se reposer encore un peu et ça fait vraiment du bien. C'est 3 expériences différentes, dont 2 à l'étranger. On est très content d'avoir sauté le pas et même si on avait des appréhensions au départ à partir à l'étranger, au final, La phase la plus difficile, c'est la phase de préparation, je trouve. La phase de préparation et de départ. Et une fois qu'on est sur place, c'est comme si la pression redescendait. Au final, on est bien, tout se passe bien. Bon, il y a des petites choses auxquelles il faut qu'on s'adapte. Mais globalement, on se rend compte que même s'il y a des soucis, on peut trouver des solutions. Et même si on y a quelque chose qu'on a oublié dans nos bagages, soit on peut se le faire livrer, soit on peut demander à des gens autour. Il y a toujours des solutions en fait. Donc si vous avez ce projet de partir avec bébé et que vous avez vraiment envie et que vous n'osez pas sauter le pas, mais je vous dirais en fait, allez-y. C'est vrai que la phase de préparation, c'est le plus gros presque du voyage. Donc vous êtes peut-être dedans, mais en fait, une fois que vous aurez atterri, ce sera beaucoup plus simple à passer peut-être les premiers jours à aller, mais ce sera beaucoup plus simple. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, comme on dit. Donc c'est un peu ça, moi, que j'ai ressenti. Et ça m'a fait du bien de me prouver aussi que c'est possible de repartir à l'étranger et de revoyager avec un enfant. C'est tout aussi bien, c'est un peu plus d'énergie, ça demande un peu plus d'énergie, mais qu'est-ce que c'est merveilleux en fait de montrer un pays aussi étranger à son enfant, une autre langue, une autre culture, d'autres habitudes alimentaires. Bon alors, je pense pas qu'Agathe, elle se souviendra de ces voyages-là, mais moi, c'était un réel plaisir de lui partager tout ça, en fait. Donc voilà, là, je pense pas qu'on va repartir à l'étranger tout de suite, mais au moins, les premières expériences ont été faites et on sait qu'on repartira dans quelques mois, c'est certain. Voilà, j'espère que cet épisode n'était pas trop long. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, des conseils pour voyager avec votre bébé. En tout cas, je vous ai livré mon expérience personnelle et puis en essayant de rien oublier, même si je pense que j'oublierai toujours des petits trucs. je vous souhaite de jolis voyages avec votre bébé ou vos bébés si vous avez ce projet. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages s'il y a des questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu. Voilà, passez une belle journée ou une douce soirée en fonction de votre temps d'écoute. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.